Europe 1. Europe 1. On de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Guy Carlier qui est parvenu à vaincre la boulimie qui l'avait rendu obèse. Il pesait 250 kilos, il en pèse aujourd'hui 125 et il raconte son histoire dans un livre qui paraît au Cherche-Midi, moins 125, et il est là bien sûr avec moi. Alors à la question du pourquoi, au fond pourquoi est-ce qu'on se jette sur la nourriture une grande partie de sa vie, tu apportes Guy au début du récit 4 ou 5 pistes. La première, on peut peut-être passer rapidement. Tu es né prématuré de 7 mois et donc on te gave parce que le médecin a dit il en gardera probablement des séquelles.
Oui, probablement que c'est la cause la plus simple, la plus mécanique, on va dire, c'est-à-dire probablement une habitude à outre-manger dès le début et liée à la guérison. Donc, alors que c'est l'inverse. Mais
c'est pas la clé.
Je pense que c'est mineur.
La deuxième piste, je pense qu'elle est là, la clé. C'est une forme d'insécurité liée à ta mère, une sorte de peur de l'abandon, alors qu'en vérité, elle ne t'abandonne pas. Mais tu le vis comme ça, dès ta petite enfance, et notamment dans cette scène terrible de la garderie, où tu as le sentiment qu'elle t'a jeté dans la gueule du loup.
Oui, je pense que j'ai évidemment travaillé là-dessus avec une psy dont tu viens de parler. Je pense que tout est lié à la peur de l'abandon. Et la peur de l'abandon, la première fois, et le fait d'être rassuré par rapport à cette peur par la nourriture.
C'est quand la cantinière, enfin la monitrice te fait manger du porc puré qui est ton plat préféré, au moment où tu avais peur et où elle est rassurante.
J'étais collé contre un mur, j'entendais les grands, c'est-à-dire ceux qui avaient 7 ans, moi j'en avais 5, et à cet âge-là, il faisait du bruit, et j'étais collé contre ce mur, elle vient me chercher, elle me prend la main, et elle m'emmène déjeuner à la table des moniteurs, des grands, de ceux qui me protégeaient, donc elle me donne voilà, une côte de porc avec de la purée, ce que me donnait également ma grand-mère, c'est-à-dire... Et tout à coup, j'associe ça à quelque chose qui me rassure, qui est sécurisant et qui évite l'agression des autres, qui me protège en tout cas de l'agression des autres. Mais aussi, parallèlement à ça, cet abandon-là, il venait avec une phrase que je prononçais, paraît-il, souvent quand j'étais petit, c'est « Il est où mon papa ?» On est à du Stromae, mais voilà, cet abandon-là, il était déjà inscrit. À l'époque, il était inconscient, mais je voyais bien
c'est-à-dire
que c'était pas normal.
C'est-à-dire qu'il y a aussi la souffrance du départ de ce père. Jusqu'à quel point est-ce que tu sais, déjà, que ton père n'est pas ton père ?
C'était terrible, parce que ma mère faisait un silence là-dessus. Évidemment, dès que j'ai été... adulte, j'ai essayé de le retrouver, ce père-là, avant Lucien Carlier, avant que j'apprenne qu'il n'était pas mon père. Donc quand j'étais en fac, etc., j'ai commencé, et je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé où il habitait, je suis allé dans la maison où il habitait, et là, quelqu'un m'a ouvert, je pense que c'était la femme avec qui il vivait, et je lui ai dit, je suis le fils de Lucien Carlier, vous lui direz que Guy est venu. Et cette femme est venu chez ma mère le soir même dire « Guy est venu, son père voudrait le voir ». Et ma mère m'a engueulé. Et j'ai dit à ma première femme avec laquelle je vivais à l'époque « Je vais laisser quelques mois retomber le soufflet et je le reverrai ». Et il est mort pendant ces quelques mois. J'en ai voulu à ma mère. Il y avait un blackout complet. Maintenant, je comprends les raisons. C'était pas mon père. Elle me disait, mais pourquoi tu veux voir cet homme-là qui s'est jamais occupé de toi, etc. Elle me parlait avec... Comment on peut dire ça de son père, quoi ? Et j'avais la volonté de le retrouver. Et évidemment, j'ai vécu toute une enfance, toute une scolarité, tu sais, avec la demi-page au début de l'année scolaire, profession de la mère, enfin, etc., profession du père, et j'écrivais, fallait que j'écrive pas de père.
Pas de père.
Pas de père, me disait ma mère. Et les profs disaient, mais attends, Guy, pas de père, ça veut dire ton papa est décédé, enfin, non, j'ai pas de père. Je répondais cette phrase stupide que m'avait demandé de dire ma mère. Et voilà, je suis resté comme ça. Il y avait, tu sais, quand t'es enfant, t'aimes bien la normalité, t'aimes bien... Moi, sur la boîte aux lettres, il y avait 3 noms. Il y avait le nom de mes grands-parents, il y avait le nom de jeune fille de ma mère, il y avait Carlier, il y avait même 4 noms, puisqu'il y avait le nom de mon beau-père. Et quand mes copains venaient, ça me gênait qu'ils voient ces 4 noms sur la boîte aux lettres. Et donc, il y avait une insécurité et il y avait un mensonge permanent. Je mentais sans arrêt à l'école en disant mon père m'a dit, etc. Enfin voilà, et en empruntant des phrases à mon beau-père ou voilà.
Tout ça, c'est la clé. Oui. Tout ça mélangé.
Bien sûr.
Avec cette rivalité qui naît entre ta mère et ta grand-mère, sur une base qui est intéressante, c'est que ta grand-mère adore ton père qui n'est pas ton père, le fameux Lucien Carlier, ta mère le déteste, et la grand-mère considère que c'était un héros, c'est un résistant, puisqu'il était FFI.
Et puis surtout, ma grand-mère était andalouse et en veut terriblement à ma mère d'avoir divorcé.
On ne divorçait pas
en Andalousie. Et donc, elle gardait ostensiblement la photo de ce type
et
avec
son
bras.
Et donc tout ça fait une sorte de tambouille mortifère, quoi.
Ouais.
Dans laquelle tu grandis.
Oui, c'est-à-dire que ces femmes-là me nourrissent au nom de l'amour, mais au nom de leur haine, l'une envers l'autre.
On va parler dans un instant de ce premier nutritionniste qui t'a mis sacrément dans la merde, c'est ce qu'on peut dire. Je rappelle que le livre de Guy Carlier s'appelle « Moins 125 », il est co-signé par le docteur Jean-Michel Cohen, et il paraît aux éditions du Cherche Midi.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Guy Carlier, qui est parvenu à vaincre la boulimie qui l'avait rendu obèse. Il pesait 250 kilos, il en pèse aujourd'hui 125. Il raconte son histoire dans un livre qui paraît aux éditions du Cherche Midi, moins 125. Et il est là avec moi, et il faut qu'on parle de ce premier nutritionniste qui a vraiment bousillé ta vie, qui, je rappelle qu'on a décidé de se tutoyer pour les gens qui arriveraient maintenant, et qui te met dans la tête cette idée complètement folle qu'en devenant célèbre, tu en finiras avec la boulimie. Ça paraît énorme quand même, mais tu le crois.
Oui, ça paraît énorme, et finalement, quand je me suis retrouvé dans la clinique des addictions, je me suis rendu compte que je côtoyais des comédiens, je côtoyais des auteurs, je côtoyais des gens qui faisaient ces métiers-là et des gens qui pensaient probablement que le besoin de reconnaissance allait les sauver. Or, tous ces gens, on s'apercevait que c'était cette reconnaissance qui, au contraire,
les fragilisait.
Parce que c'est un leurre. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et en tout cas, c'est pas cette reconnaissance-là. C'est une autre reconnaissance dont on a besoin. Mais pour en revenir à ce nutritionniste-là...
Tu l'as cru.
Je l'ai cru. Mais avant lui, il faut savoir que dans les années... dès que j'ai commencé à vouloir maigrir, à l'époque, c'était vraiment n'importe quoi en matière de nutrition. On te donnait des amphétamines, on te donnait des extraits thyroïdiens, on te donnait des diurétiques, donc évidemment, tu pissais pendant 3 jours, tu perdais 3 kilos, tu étais content. Enfin, des trucs qui te lançaient un effet de yo-yo que connaissent tous ceux qui ont un problème de poids, jusqu'au jour où j'ai rencontré ce médecin, qui était donc nutritionniste et psychanalyste, et qui donc a fait 3 préconisations qui s'avéraient être 3 désastres, puisque tu l'as raconté, je ne vais pas insister, mais surtout, ce qui était drôle, c'était ce besoin de reconnaissance. Je pesais 125 kilos, j'étais directeur financier, et il me dit, il faut que vous assouvissiez ce besoin de reconnaissance.
Il n'avait peut-être pas tort là-dessus.
Oui, probablement.
Tu avais ça
probablement,
en toi.
Probablement, parce que parallèlement, au côté tragique de ce qu'on vient d'évoquer, il y avait des bénéfices secondaires. J'étais heureux quand je donnais du plaisir aux gens, quand ils m'écrivaient, les gens me disaient qu'ils m'aimaient. Tu te rends compte, malgré ça, ils m'aimaient. Alors à la radio, il y a le leurre de la voix, donc je savais que je trichais un peu. C'est peut-être pour ça que j'ai accepté d'aller à la télé. Et malgré l'image, ils m'aimaient encore.
Je veux qu'on parle de la télé, justement. Tu dis une phrase très forte que tu n'explores pas plus avant. Et j'aimerais bien qu'on essaye un peu maintenant. Tu dis à la télé, on m'a exhibé comme à une fête foraine. Est-ce que ça veut dire que tu penses qu'on t'a montré à la télé pour montrer un gros ?
C'est très difficile parce que Marc-Olivier Fogiel est resté mon ami. C'est-à-dire que ce n'était pas une amitié bidon, de circonstances. Voilà, on n'a pas fait semblant.
Disons pas que c'est Marc-Olivier Fogiel, disons que c'est l'époque.
Voilà, non. Non, c'est peut-être tout simplement la production, le système, voilà.
Des personnalisants.
Voilà, j'étais un peu, tu vois, il y a toujours des personnages comme ça, il y a Pierre Ménez, il y a toujours ça.
Le bon gros.
Le bon gros, ou en tout cas la minorité visible qui a un caractère très particulier, on pourrait dire la même chose de Madame Garrido, enfin de gens comme ça, et dont on associe le physique à des prises de position également outrancières. Donc... C'est dans ce sens-là qu'il y a ce côté
Mais tu écris « Mon humour et mes insolences n'étaient qu'un alibi. » Mais tu avais vraiment de l'humour. C'était vraiment drôle. C'était très insolent et très dérangeant, et délicieusement dérangeant pour l'époque.
Oui, mais je pense,
mais je pense
vraiment que quand les gens ont voulu que je fasse de la télé, les producteurs qui m'ont demandé pour la télé, il y avait ce côté phénomène qui entrait en ligne de compte, j'en suis convaincu, parce que moi, mon truc, c'était la radio. Je suis convaincu aussi que la voix va toucher les replis de l'âme bien plus que l'image, qui constitue un filtre, en fait.
On partage ça.
C'est une évidence. Donc, c'était vraiment... moi, je n'avais pas envie. Et d'ailleurs, après, à la télé, je n'ai fait plus que des choses qui m'intéressaient. Parce que, voilà, le foot ou des choses comme ça, anecdotiques. Mais sinon, je ne suis pas un malade de ça. Tous les ans, on me proposait, tiens, on va mettre autour d'une table des snipers, il y aura Lio, il y aura Christophe Alévèque, et il y aura Carlier, et puis vous la ramènerez, tu vois, genre, ouais. Grande gueule, voilà. Donc, chaque année, je disais non. Et surtout, je suis convaincu que ça entrait dans le choix des producteurs en ligne de compte, cet atypisme physique.
Merci Guy d'avoir accepté de me confier ton histoire et de me laisser la raconter à ta place, avec ma voix. Je rappelle le titre de ce livre qui s'appelle « Moins 125 », d'où j'ai tiré cette histoire, qui est complété par un autre récit, celui que Jean-Michel Cohen fait de cette expérience. Pour lui, c'était un enjeu important, c'est un nutritionniste assez contesté, néanmoins, c'est lui qui t'a sauvé. Ce livre paraît aux éditions du Cherche Midi. Je serai là demain, à 2h de l'après-midi, pour raconter une autre histoire. Je vous laisse avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Salut.
Europe 1, 14h-15h, on de la traconte.